Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, vous écoutez Salut ça va, le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Et bonjour à tous.
On a un invité très spécial. Tous nos invités sont spéciaux, mais là, je dois dire qu'il y a une connexion particulière. Mmh. Déjà parce que, posons le contexte, Luc, donc notre invité qui est là, salut Luc.
Salut.
est habillé absolument exactement pareil que Mathilde.
Oui, vraiment, on pense qu'on a fait un FaceTime juste avant et qu'on s'est, qu'on s'est décidé ensemble.
Ce n'est pas fait exprès, je le confirme.
Et alors, c'est pas genre jean, t-shirt blanc, parce que moi, à la limite, jean blanc, tu vois, ça aurait pu être le cas. Non, c'est vraiment pantalon pastel vert, petit haut blanc, enfin vraiment, c'est
une même matière.
Ouais, c'est incroyable. Il y a des connexions comme ça qui se font.
Est-ce qu'on peut parler de sororité peut-être?
Oui, exactement. Je crois qu'il y a eu
une connexion.
Une connexion qui s'est faite. Donc, Luc, tu es notre premier invité de cette saison 3, donc invité d'honneur. Voilà.
Merci de m'accueillir.
Ouais, ça fait plaisir.
On entend.
Ça fait longtemps qu'on voulait t'accueillir en vrai.
Ouais.
Parfait. C'est vrai qu'on en a parlé et nos emplois du temps très chargés d'entrepreneurs ont reculé la date.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour mieux arriver parfois, reculer pour mieux sauter. Parce qu'on commence
à se retrouver assorti
avec des petites phrases philosophiques. Du coup, Luc, je pense qu'on va déjà peut-être faire la question de base, de petite présentation. Voilà, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, pas tout, mais en quelques mots, tu vois, pour poser le contexte. Voilà.
Si on ne te connaît pas du tout.
Eh ben, très bien. Donc du coup, je m'appelle Luc, je viens d'avoir 37 ans. Je suis coiffeur et entrepreneur. Donc coiffeur depuis mes 15 ans et entrepreneur dans l'âme, je pense, depuis mon enfance. Donc je suis un touche-à-tout. J'ai eu, je pense, déjà plusieurs vies. Un épisode ne suffira pas à tout raconter. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai trouvé ma voie dans l'entrepreneuriat et aussi dans ma relation avec mon mari qui est également mon associé.
Et ouais, et c'est vrai que jeune marié, Luc est un jeune marié de 2022.
Exactement, non, après une période d'essai de 18 ans, nous sommes passés du CDD au CDI.
C'est une période d'essai assez longue. Hein.
Exactement, donc nous sommes jeunes mariés, effectivement, on peut le dire.
C'est génial, et c'est marrant de t'entendre, tu vois, te présenter comme entrepreneur et tout, et c'est génial, j'adore ça, parce que quand on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années, on peut le dire, c'est vrai que je me souviens que tu ne te présentais pas forcément de cette façon.
Exactement.
Tu vois, l'étiquette, donc tu vas nous parler un peu de ce parcours-là. Quel regard tu portes sur ton enfance, justement, tes premières années, tout ça, c'est quoi les souvenirs qui te viennent?
Alors, c'est vrai que j'ai eu une enfance remplie d'amour, avec des parents aimants, même si nous ne partagions pas forcément les mêmes points de vue. Rapidement, vers 7-8 ans, je me suis rendu compte que je ne partagerais certainement pas leurs idées, notamment religieuses. Mes parents étaient témoins de Jéhovah. Donc du coup, je me suis rapidement affranchi et j'ai commencé à me construire en dehors de cette communauté, de cette religion, pour pouvoir quitter complètement tous les rendez-vous rituels de cette religion vers l'âge de 11 ans.
Déjà, 7-8 ans, c'est hyper tôt pour
ce que j'allais
compte.
Dire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es rendu compte?
En fait, le fait qu'il y avait certains marqueurs sociaux comme le fait que les témoins de Jéhovah ne font pas par exemple les fêtes de Noël ou les anniversaires. Il y a d'autres célébrations dans la religion, donc on avait d'autres rituels familiaux, mais pas cela. Je me suis rapidement rendu compte que ça ne me correspondait pas, ça ne me plaisait pas qu'on m'oblige entre guillemets à croire en quelque chose, qu'on me dicte mon mode de vie déjà. Et moi, j'avais envie déjà de tout découvrir. Je me suis rendu compte après que certaines coutumes du monde extérieur, donc des non-témoins de Jéhovah, ne me plaisaient pas. et je n'y ai pas adhéré, mais j'avais envie d'avoir le choix.
En fait, tu étais déjà hyper affirmée.
C'est ça.
Est-ce que tu avais l'espace, du coup, de pouvoir choisir? Est-ce que tu as eu l'espace aussi d'avoir cet esprit un peu critique?
Au final, oui, parce que même si mon père occupait de hautes fonctions dans cette organisation, c'était quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit, de non-violent, et ma mère aussi. Donc, du coup, c'était plus dur pour ma mère, qui, elle, avait une foi inébranlable et qui a vécu mon départ un peu comme un deuil. Et qui en a été malade avec une dépression assez profonde. Donc, elle a vécu ça de manière douloureuse. Donc, ça a généré chez moi beaucoup forcément de culpabilité parce qu'à cet âge-là, on n'a pas envie de faire de mal à ses parents. Mais bon, ça a été une première étape d'affirmation pour moi.
Ouais,
voilà, je me suis senti très seul quand j'ai quitté l'organisation parce qu'en fait, c'était 3 réunions comme 3 messes par semaine.
Ouais.
Donc, 3 soirs par semaine où j'étais totalement seul, sans mes parents, etc. Donc, ça, c'était... voilà, j'ai perdu une communauté parce que entre eux, ce sont des personnes très soudées, très...
Et t'as des frères et sœurs, toi ?
Alors oui, moi j'ai une sœur aînée avec qui je me suis toujours très bien entendu, mais avec qui on a un écart d'âge d'une petite dizaine d'années. Donc au moment où je vivais ça, elle était déjà adulte, diplômée, en partie dans la vie active, donc forcément...
Oui, c'est pas les mêmes
réalités. Il y avait un décalage. On n'a pas forcément grandi côte à côte.
Ouais.
Il y a eu un décalage, on s'est plus retrouvés une fois qu'elle avait fondé sa vie de femme. Donc c'est vrai que nous avons lié des liens avec ma sœur plus tard, quand je m'étais affirmé qu'elle aussi avait construit quelque chose de son côté.
Ouais. Je ne sais pas si à cet âge-là, tu vois, tu te rends compte à quel point c'est une décision qui va pouvoir guider ta vie, mais toi j'ai l'impression que ça a été le premier pas de beaucoup de choses dans lesquelles tu t'es affirmé plus tard, c'est-à-dire que ça faisait partie limite de ton tempérament, entre guillemets.
Je pense que c'est quand même tellement prenant, enfin, de ce que tu en racontes, ça a l'air d'être tellement prenant que j'imagine quand même que tu te rends compte malgré l'âge, vois, du changement que ça peut représenter.
Exactement. Alors, ça peut paraître surprenant, mais petit, j'étais déjà profondément athée. J'étais profondément convaincu de la force de la biologie, du vivant, mais je ne croyais pas forcément en un créateur suprême. Alors, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et j'ai des amis qui ont d'autres convictions religieuses que je respecte. Et pour moi, ce n'est pas un problème dans mes relations. Je ne sélectionne pas mon entourage en fonction de leurs croyances. Mais personnellement, je suis guidé par autre chose.
Ouais, t'as eu un esprit... plus cartésien, quoi.
Exactement. Je suis complètement guidé par autre chose. Et petit, j'étais... Alors, ça pouvait être pris pour de la provocation, mais je riais. J'avais une grosse ironie, une part d'ironie en moi très forte. Quand j'entendais des choses liées à la religion, pour moi, je savais c'était faux. C'était faux, c'était même ridicule.
Ça n'avait pas de sens pour
moi. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et j'avais même l'impression qu'on racontait un conte, pas pour enfants, mais pour adultes.
Ouais. Regardez-les, ces adultes qui croient. Mais c'est vrai que pour un enfant, du regard de l'adulte, on peut se dire il y a tout de suite ce truc de ah là là, il est provocant ou il est. Ou tu vois, c'est un manque de respect, etc. Alors que dans la tête d'un enfant, en fait, il y a beaucoup de choses qui, quand c'est hors de la réalité ou quand ils ne comprennent pas, eh ben, ils vont avoir une réflexion qui va être justement hyper carrée, pointilleuse sur des détails où juste si ça s'explique pas, c'est pas possible pour eux, ils arrivent pas à l'envisager. Donc ça amène à tu vois, des réflexions qui sont un peu drôles parce que justement, c'est toi l'enfant, donc t'es censé être celui qui est justement dans l'imaginaire. Voilà, et en fait, des fois, ça c'est enfin, moi je vois Gaspard. Bon, il a 4 ans, mais des fois, c'est des trucs. On va faire du second degré sur certaines choses, et à leur âge, ils vont revenir à un truc hyper, tu sais, presque sérieux, quoi.
Oui, puis le cerveau humain a un besoin de comprendre qui est quand même énorme. Et nous, quand on comprend pas encore, on arrive à gérer le fait de ne pas comprendre. Un enfant gérer le fait de ne pas comprendre quelque chose. Ça le frustre beaucoup.
Ouais.
C'est très frustrant. Mais du coup, t'avais déjà, je trouve, un esprit hyper critique, très jeune, en fait.
C'est vrai. Et en plus, il y a un élément qui a, je pense, m'a propulsé tôt dans une pensée d'adulte. C'est que notre vie a été rythmée par les maladies de ma mère, parce que ma mère a été de nombreuses fois très, très malade, même en phase terminale, avec plus d'une 20aine d'opérations, des cancers, tous aussi graves les uns que les autres. Donc, notre vie a été rythmée entre hôpitaux, chimio, radiothérapie, etc. Donc, du coup, pour moi, j'avais déjà compris, je n'avais pas de temps à perdre. Cette entrée dans la vie a été aussi la source plus tard de certains de mes excès. Mes envies, je pense qu'on en parlera après, de tout goûter, de tout tester et d'aller toujours plus vite et plus haut jusqu'au point de me servir de moi, de mon corps, de mon esprit comme d'une machine, d'un outil. et à me perdre en fait complètement parce que j'avais peur que ça s'arrête en fait, je pense, inconsciemment. Mmh. Je voulais aller vite. J'étais persuadé que j'allais peut-être mourir avant 20 ans, 30 ans. Donc je voulais aller super vite.
Est-ce que j'allais te demander si tu avais un peu des angoisses liées à la mort, etc.
Oui.
Que tu relies un peu à ces événements-là.
Oui, totalement. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un élément déclencheur, malheureusement, un événement qui a radicalement fait changer ma vision des choses. C'est quand ma mère est décédée, j'avais 33 ans, donc bien trop jeune pour elle, bien trop jeune pour nous et bien trop tôt pour toute la famille. Malheureusement, il a fallu apprendre à vivre avec. Et là, je me suis dit que je ne voulais pas m'enfermer dans un deuil qui risquait de devenir une maladie, un cercle vicieux. Donc, j'ai la chance d'être bien entouré et j'ai une amie dont c'est le métier, qui est psychologue, qui m'a tendu la main et qui m'a proposé voilà, de m'aider de manière rapide. Donc, du coup, là, j'ai commencé à faire de l'EMDR. Donc, voilà, une technique qui m'a pour moi sauvé parce que j'ai pu vraiment archiver toute cette douleur que j'avais et qui m'empêchait d'avancer. Et j'ai pris conscience finalement de beaucoup de choses. Ça a été... c'est bizarre à écouter peut-être, mais le décès de ma mère a été pour moi le début d'une nouvelle vie en fait.
Oui.
J'ai découvert...
C'est pas étonnant quand on t'entend en parler, parce que en fait, tu le dis, hein, que ta vie était scandée par les temps de maladie de ta maman. Et j'imagine en plus que quand on a une maman ou un parent ou un proche qui est très malade, auquel on est très lié et auquel il y a un attachement très fort, ben forcément, il y a l'inquiétude déjà de quand on est aidant, l'inquiétude de quand on est enfant. Et puis surtout, quand c'est des récidives comme ça, c'est toujours une espèce de boucle en fait, où c'est un processus qui recommence perpétuellement. Et quelque part, à un moment donné, du coup, ça s'est arrêté. Donc tu as dû, j'imagine, te réadapter à vivre déjà parce que tu venais de perdre ta maman et que c'était a priori un pilier dans ta vie. Et en plus parce que du coup, ça a changé cette espèce de timeline. Je vais arrêter de parler anglais définitivement, je crois. Il faut savoir que j'ai un anglais très médiocre.
Montpellierin, Mathilde.
Voilà. Non, mais il faut être très honnête. Ces temps-là, en tout cas,
exactement.
Je ne vais pas dire le mot, ça a dû changer ces temps-là pour toi aussi.
Oui.
D'où le côté nouveau départ.
Ça a été totalement ça. En fait, j'ai aussi réalisé lors de cet essai que je faisais beaucoup de choses pour prouver à mes parents et notamment à ma mère, qui avait été très, très peinée de mon départ de leur religion quand j'avais 11 ans, qui en a été malade. Sa crainte, c'était que lorsque j'allais rentrer dans le monde extérieur, que j'allais quitter leur communauté, que je me perde, que je ne sois plus soutenu par cette communauté et que je devienne une mauvaise personne. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai passé les premières années de ma vie d'adulte à tout faire pour prouver le contraire, d'où cette boulimie d'aller toujours plus vite et de vouloir tout essayer et aussi mes difficultés à me poser et à finir aussi ce que je commençais. Parce que entre les idées, quand on est entrepreneur, on peut avoir beaucoup d'idées, mais mettre en place, développer, stabiliser et pérenniser, c'est là le plus dur.
Ouais. C'est marrant parce que tu vois, je pense que quand tu vis de cette façon, l'entrepreneuriat, c'est à la fois une chance et en même temps, tu peux tellement t'y perdre parce que, comme tu le dis, t'as les envies, t'as les idées, ça n'arrête pas. Enfin, on sait que quand on dit, les week-ends n'en sont pas parce qu'en fait, même si t'es pas en train de travailler avec tes mains, tu travailles avec ta tête et ça ne s'arrête pas. Et donc, il y a cette espèce de course à l'idée, de course à la mise en place, de course à... Enfin, c'est un peu l'entrepreneuriat, t'as pas vraiment de fin, c'est-à-dire que c'est plutôt des étapes que tu franchis et du coup, à peine tu vois au bout l'étape qui arrive que tu te dis je prépare la prochaine et donc ça entraîne complètement ce type tu vois, de comportement. Après ça peut être, je pense, et aujourd'hui je pense que t'as du recul là-dessus pour dire que c'est quelque chose qui peut au contraire être positif parce que t'as mis beaucoup de choses en place et puis à côté je trouve que t'as quand même quelque chose qui était très stable pour le coup, arrête-moi si je me trompe, mais c'est ta relation qui a été avec Flo, depuis, tu vois, 18 ans, tu le dis.
Exactement. Et l'âge de 18 ans.
Ouais, voilà. Donc, comment est-ce que, à côté, tu avais donc, j'imagine que ça a été quelque part une structure qui, parce que pour vous connaître un petit peu quand même, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez eu des enfances plutôt très différentes, enfin des constructions différentes.
Exactement.
Et que vous êtes, alors pour le coup, c'est un peu le yin et le yang. C'est vraiment les énergies, tu vois. Donc, comment est-ce que cette relation, justement, elle a joué pour toi pendant ces années?
En fait, si je dois faire un résumé, une synthèse, je peux dire que vraiment, moi, l'amour m'a soigné et m'a sauvé parce que quand j'ai rencontré Florent, j'étais à la fois écorché vif, passionné, j'étais tout à la fois. Et c'est vrai que lui, par sa régularité, sa stabilité, par les fondations qu'il avait en lui, m'a guidé, m'a suivi dans mes folies. C'est aussi ce qui nous a permis de nous réaliser tel qu'on l'a fait aujourd'hui. Donc, il y a eu une part de folie, mais il y a eu aussi des moments où j'en ai été trop loin. Et je m'en suis aussi voulu parce que je lui ai fait vivre des moments difficiles liés à des projets dans lesquels on s'est mis et dont il a fallu se sortir. Donc, c'est là où j'ai pu voir toute la force de son caractère, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de très pugnace et qui sait, on va dire, aller jusqu'au bout. Donc, on se complète totalement. On a fait un coaching l'année dernière avec une société. Et c'est vrai que la personne qui nous a coaché a fait un bilan de nous, dont j'ai oublié d'ailleurs le bilan. Alors moi, je crois que je suis le fou et Florent est le peut-être le garde-fou ou voilà. Ouais. En tout cas, c'était quelque chose comme ça.
Bah, de toute façon, dans votre business déjà, tu vois, le fait d'être associé, tu peux pas être associé avec n'importe qui déjà de base. Mais alors, dans la vie privée et quand ça concerne tes relations et encore plus ton compagnon, etc., c'est d'autant plus prenant parce que pour le coup, la barrière entre le pro et le perso s'affine encore plus. Mais tu vois, je reviens beaucoup sur le fait que une certaine forme de culpabilité, je l'entends, tu vois, de tout ce que vous avez pu vivre, etc. Mais en fait, certainement que Flo, s'il racontait la façon dont lui, il a vécu ses 18 années, peut-être qu'il aurait un regard de, justement, d'admiration et d'appréciation de cette folie et de ces projets tentés et tu vois, de tout ça. Et je pense que dans un couple et dans une relation, même s'il t'a apporté beaucoup et tu vois, tu dis il m'a sauvé, etc. Mais je pense qu'en fait, vous vous êtes trouvé avant même de vous sauver.
De toute façon, sauf s'il est d'un altruisme 100% pur, mais a priori, comme n'importe quel être humain, voilà, il y a trouvé des bénéfices. Ça, c'est évident, parce que dans une relation, à un moment donné,
totalement, on s'est nourri l'un l'autre. Lui aussi, avant de me rejoindre à 100% dans cette aventure, parce qu'il faut savoir que l'aventure, la récréation, c'est lui qui en a eu l'idée. Moi, j'avais pris une autre voie après avoir donc démarré la coiffure. Et après avoir été collaborateur dans différents salons, ma passion pour la décoration, la création de mobilier et l'immobilier m'a poussé à me détourner progressivement de la coiffure pour me lancer il y a quelques années dans une aventure où nous avons créé et exploité des maisons de vacances dans le Gard et en Bretagne. Donc c'était une expérience pour moi vraiment très enrichissante et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Mais derrière, il y avait une petite voix qui était celle de Florent qui me disait « c'est bien, mais je pense que dans ton métier de base, tu as quelque chose de bien mieux à faire et pense-y, tu devrais te lancer, etc. Ouais. »
Est-ce que c'est justement l'immobilier, ça représentait pour toi quelque chose de plus sérieux que la coiffure ? Est-ce que c'était dans cette idée-là de te dire que ben, tu vois, tu disais que tu pouvais avoir cette sensation de devoir prouver, etc. Est-ce que c'était une voie qui te paraissait plus classique.
Alors, tu viens de pointer du doigt quelque chose de très très intéressant, parce que j'avais gardé en moi la vision d'un métier un peu de seconde classe que je n'avais pas forcément choisi par passion. Vers 16 ans, quand j'ai choisi ce métier, j'étais en échec scolaire. J'avais de très bons résultats dans certaines matières et à côté, j'avais passé mon enfance à rêver à l'école. Et en fait, j'ai loupé beaucoup de choses. Donc, il y avait des mécanismes de pensée, des choses que je n'avais pas. Et donc, j'étais en total échec. Mais je n'avais pas vraiment le choix, en fait. En gros, on m'a dit, voilà, tu vas être garagiste, maçon, boucher ou coiffeur. Donc, comme il y avait aussi le fait que j'aimais les hommes, que j'étais... je savais déjà que j'étais gay depuis très longtemps. J'allais dire ma naissance, ça serait un peu exagéré.
Oui, mais... on y reviendra parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on y reviendra.
Donc, du coup, par dépit, et le mot est tel qu'il est, j'ai choisi la coiffure. Et je suis arrivé dans le pire salon dont j'aurais pu pas rêver, mais justement cauchemardé. Je me suis retrouvé donc esclave dans un salon de coiffure de village où pendant 2 ans j'ai donc plié des serviettes, j'ai posé des bigoudis sur des dames qui ne m'entendaient pas et qui ne me voyaient pas pour certaines, et donc mon esprit frondeur était déjà là à l'époque. Mon contrat d'apprentissage était sur 3 ans, mais sans rien dire à personne, j'ai passé mon diplôme en candidat libre. Je me suis entraîné jour et nuit pour réduire ce cauchemar de 1 an, c'est-à-dire passer de 3 ans à 2 ans.
Oui.
Je me suis inscrit tout seul, j'ai passé mon diplôme en candidat libre, j'ai pris le bus pour aller passer mon diplôme. Et j'ai eu mon diplôme. Et donc là, très fier, avec un esprit déjà frondeur, j'ai été voir mon employeur et je lui ai dit « Merci, au revoir. »
Mais
je suis diplômé, je m'en vais.
Tu as, en fait, c'est vraiment le mot qui... Enfin, les deux mots assemblés qui me viennent depuis tout à l'heure quand tu parles, c'est exigence élevée.
Ouais.
tu as des exigences c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Élevées. Exactement. Et je pense que c'est à la fois ton guide et c'est à la fois ce qui a fait que tu as eu parfois du mal à profiter de certaines réussites. Et exactement. Qu'une fois qu'un projet était accompli, réussi, hop, il fallait passer à autre chose.
Exactement.
Et dans les exigences élevées, il y a aussi ce truc-là de réussite matérielle au sens parce que c'est sécurisant.
Exactement.
Et que ça prouve qu'on a réussi. Oui. Tu avais besoin de démontrer à tes parents ça, en fait.
À mes parents et au niveau social, j'avais besoin aussi de... On avait vécu des moments difficiles liés à la maladie. Ma mère ne travaillait pas. Mon père a été malade jeune. Il a dû arrêter 10 ans avant l'âge de la retraite parce qu'il était invalide. On a eu de gros problèmes financiers. Il y a eu des moments traumatisants où mes parents ont dû faire appel à de l'aide alimentaire, etc. Et j'avais vraiment la sensation d'être... qu'on perdait des choses. Donc, c'est vrai que sur la partie métier, je te rejoins totalement, Mathilde. C'est vrai que j'ai un niveau d'exigence qui est très élevé et qui, parfois, ne me permettait pas de me rendre compte de ce que j'avais créé, de ce que j'avais sous les yeux. Parce qu'au fond de moi, j'étais toujours le petit garçon et l'élève qui avait fini avec 0,75 de moyenne, dont une professeure m'avait prédit un avenir sombre. Ma mère était sortie en pleurant. Enfin, bon, voilà, je me rappelle de tout ce drame autour de ça.
Ça avait touché ta confiance en toi.
Mais totalement, pour moi, la coiffure n'était pas une voie dans laquelle je réussirais. Attention, ceux qui vont nous écouter, qui sont nés avant 2000, vont être choqués. Mais il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas la possibilité de se propulser comme on se propulsait. Je ne connaissais rien de ma profession, j'étais en province. Paris, pour moi, était inaccessible. Je ne connaissais absolument pas d'entrepreneur dans la coiffure qui avait réussi. Et la seule chose que je voyais autour de moi, c'était des petits salons ou des grandes chaînes. Rien de tout ça ne me plaisait. Donc pour moi, je m'étais dit, tu as un métier solide, tu pourras toujours être coiffeur, mais trouve-toi quelque chose de mieux si tu veux.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Réussir.
Ouais, c'est fou, hein, ce regard. Mais finalement, c'est marrant parce que quand on voit ton parcours, en fait, tu sens qu'il y avait cette envie de bien faire, de créer de grandes choses, etc. Et tu t'es dit, bon, cette voie-là, est-ce que c'est celle qui me convient le mieux? Et en fait, à un moment donné, tu as dit, écoutez, peu importe ce qu'il existe déjà, moi, je vais faire les trucs à ma façon. Et tu t'es dit, je vais pas faire comme il existe déjà, je vais prendre toutes mes valeurs, toutes mes convictions et l'exigence qui va avec et on va créer le truc sur mesure, quoi. Mais poussé par Flo, c'est ça qui est...
Exactement. Et en plus, Florent, qui a une belle capacité d'analyse et de recul, m'a fait prendre conscience qu'avec les 10 ans qu'on avait passés à peu près de nos 23 à nos 33-34 ans, on avait de solides bagages dans l'immobilier, dans la finance, dans le fait de créer une entreprise, de lever des fonds auprès d'une banque, de gagner la confiance de fournisseurs. Florent a fait quand même une carrière dans le marketing, la communication, où il a occupé donc un poste à responsabilité qui lui a permis d'acquérir pareil de solides connaissances pour nous aider à propulser aussi la récréation très rapidement tel qu'on l'a fait, parce qu'au début, on a tout misé sur certains éléments de communication, mais on ne connaissait rien à l'univers digital. C'est là que je t'ai rencontré, Léa, d'ailleurs, et que j'ai découvert l'univers des réseaux sociaux, que j'ai découvert plein de choses, et que aussi, tu as changé mon regard, le regard que je portais. Pour moi, les réseaux sociaux n'étaient pas un endroit sérieux, n'étaient pas un endroit où il y avait des entrepreneurs sérieux, avec de réelles convictions. Je mélangeais un peu, je pense, réseaux sociaux et télé-réalité.
Ouais. Non, mais je peux comprendre, hein, totalement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que vous vous êtes lancé, tu vois, sur les réseaux et que toi, tu as assumé et accepté et, tu vois, et embrasé ce rôle d'artiste, vraiment, et je pèse mes mots sur la partie coiffure et ton talent, etc. Et moi, j'arrêtais pas de te dire, mais vraiment, il faut que tu te distingues parce que c'est à mettre en avant et justement, l'exigence qui t'a guidé pendant toute ta vie a fait que tu as des connaissances, des compétences. Et ce travail-là, à un moment donné, il te plaît, il te nourrit d'une certaine façon. Donc, place cette exigence-là où ça te valorise et toutes ces choses pour lesquelles tu te sens aligné.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est ce que ça reflète. Et les réseaux sociaux, en fait, ce qu'on disait, c'est que ça peut être une excellente vitrine de qui tu es, même à travers ton boulot, et tu peux y trouver de l'épanouissement en ce sens. Et c'est comme ça que j'ai vu cette évolution-là et que c'est beau à voir aussi en tant que personne, en fait.
Toi qui,
totalement.
Toi qui es créatif et qui aime créer, pour le coup, ça peut répondre aussi à ce besoin-là.
Exactement. Exactement. Et c'est ce que j'ai découvert après. Là, nous sommes à notre quatrième année d'exploitation, de création du post-création du salon. Et c'est ce que j'ai découvert aussi à travers vos parcours respectifs, à travers votre manière d'allier vos activités avec de réelles valeurs, des choses qui vous animent et un fil conducteur que vous suivez tout au long de votre parcours et de l'année. C'est ce qui m'a fait prendre confiance en moi en me disant: j'aime ce que je fais, je ne suis pas que coiffeur. J'aide les femmes justement à aller chercher quelque chose qu'elles ont en elles, un pouvoir magique qu'elles ont des fois enfoui, qui a confiance en elles. La confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui peut tout changer, qui peut vraiment déplacer des montagnes. C'est parfois mon excès de confiance qui m'a permis d'oser des choses complètement incroyables, parce que j'étais tellement convaincu que j'avais droit, que je le méritais et que j'allais y arriver, que j'ai réussi des fois à faire des choses dont je suis très fier. Et je me suis rendu compte qu'avec la coloration, avec la mise en beauté de manière générale, on pouvait vraiment pousser les femmes à se surpasser et
oser.
Exactement.
Ouais, oui, même, tu vois, on en parlait la dernière fois, même des femmes qui ont des cheveux qui commencent à être blancs, à être gris, qui aujourd'hui c'est vachement pointé par la société en disant: oh là là, attention, les femmes ne doivent pas vieillir et tout, c'est terrible. Mais en fait, t'en fais une force et tu les fais apprécier qui elles sont sans couvrir ces cheveux blancs ou gris. Et au contraire, en les mettant encore plus en valeur, etc. Donc, à travers cette relation et ce lien-là, il y a un lien. En fait, déjà, le premier pas que ces femmes font en entrant dans le salon, c'est une preuve de confiance, et il y a une espèce de relation qui se crée, qui, je pense, c'est imperceptible quand tu es pas dans ce milieu là et moi, avant même, tu vois, de rentrer au salon et de voir ces femmes, etc., peut-être que j'aurais pas pu prendre la mesure. Mais c'est au-delà de juste l'acte de coiffure, il y a vraiment ce moment où déjà tu confies tes cheveux. Les cheveux, quand même, historiquement, etc., pour les femmes, c'est très très symbolique. Je veux
Bien
dire
sûr.
un coiffeur, enfin, c'est
très visible.
Oui, c'est très visible, et tu sais, il y a beaucoup ce truc de oh là là, j'ai un changement dans ma vie, j'ai une transition, etc., je vais aller chez le coiffeur, je vais changer de coupe, je vais...
Et les femmes souvent utilisent un mot qui est très fort, c'est « je veux » ou « j'ai besoin de changer de tête ». Donc
oui,
là, on parle même plus
vrai,
de cheveux, ça va au-delà. Alors de...
Mais clairement, parce que selon... Enfin, tu n'as pas la même tête,
ouais.
Ça change la forme de ton visage, l'ouverture
sourire.
De ton regard.
Ah oui, totalement.
Tu te reconnais, quoi. Enfin, tu vois, tu peux apprendre à te connaître, je pense, à travers plusieurs styles, où tu te dis, là, je me plais, là, ça me va. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'une coupe de cheveux pour te sentir bien ou pour avoir confiance, etc. Mais c'est juste, tu vois, te sentir aligné avec ce que tu représentes, la façon dont tu rentres dans une pièce, comment tu te sens auprès des autres. Tu vois, tout ça, c'est puissant.
Et je pense que le blocage que j'ai eu au début de notre activité, justement, sur les réseaux sociaux, c'est que je n'avais pas compris que je pouvais créer ma propre identité en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur du bien-être, en tant qu'acteur de la beauté. J'étais dans une tentative de mimétisme, d'imitation de ce que certains font et de choses qui, au final, me déplaisent profondément, comme... Par exemple, l'utilisation de certains coiffeurs de filtres qui vont déformer
sur les clientes,
au-delà de la couleur, mais déformer l'apparence d'une cliente pour la transformer en presque un produit marketing. Voilà, c'est des choses qui, moi, m'hérissent parce que je trouve ça inutile et ridicule. Comment s'aimer quand on se regarde dans un miroir, quand on n'a même plus la notion que la peau, ce n'est pas une...
A des pores, des rides,
exactement,
des petites marques, et c'est OK.
Que la densité des cheveux, tout le monde n'a pas une densité incroyable, tout le monde n'a pas une longueur incroyable, et que finalement j'ai vraiment appris tout doucement, notamment avec à travers ton regard, Léa, à comprendre que finalement j'avais moi aussi un pouvoir.
T'as pris confiance en toi aussi,
j'ai
en fait.
Mais
c'est une vraie liberté,
j'ai pris confiance
hein.
en moi, et inconsciemment je me rends compte que j'ai effectué un reset total du coiffeur que j'étais avant.
Ouais.
Du coiffeur.
Ce que ça représentait pour toi.
Exactement. C'est-à-dire que là, j'ai une autre vision de réelles convictions que j'ai acquises.
Bah, en fait, tu y as donné du sens.
Exactement.
C'est le sens que tu y mets parfois sur la même tâche ou le même métier ou qu'importe, la même situation n'a pas du tout la même valeur en fonction du sens que l'on y met, en fait.
Totalement.
Et là, ça a du sens pour toi parce que ça répond à tes valeurs.
Exactement.
Oui, et puis tu affines le projet au fur et à mesure des années. Mm-hmm. Ça fait que 4 ans et voilà, et c'est tout ça. Alors, je change complètement de sujet, mais je voulais faire un petit retour en arrière quand même parce que, tu vois, on a parlé de ton enfance, etc. Et on n'a pas parlé de ce moment où justement toi tu t'es alors peut-être même pas découvert parce que tu disais que ça faisait partie de toi depuis toujours sur ton homosexualité. Comment est-ce que ça a été pris par ta famille, parce que je sais que beaucoup de personnes nous écoutent avec plein de parcours de vie différents et des questionnements, et je pense que c'est un témoignage qui est toujours très intéressant. Donc comment est-ce que toi ça s'est passé?
Alors dans ma situation, j'avais un nombre d'éléments trop important. J'ai pesé le pour et le contre et je ne pouvais pas faire mon coming out. C'était pour moi impensable. Donc, j'ai fait mon coming out l'année dernière à l'âge de 36 ans parce que j'ai pris la décision de me marier et que malgré les 18 ans de vie commune avec Florent, on avait été dans un non-dit, dans beaucoup de mensonges aussi, et que c'était devenu pour moi impensable de continuer ma vie ainsi. Mm-hmm. Donc, ma mère est décédée sans savoir que j'étais gay. Et voilà, il me restait mon père. Donc, j'ai fait mon coming out l'année dernière, mais avec beaucoup d'appréhension. Parce que, au plus on attend, je pense, au plus c'est difficile. Parce qu'en plus du fait de révéler son identité, entre guillemets, j'étais hanté par quelque chose. C'était d'avoir été un menteur, en fait. La sensation d'avoir été un menteur, à la fois un protecteur, mais aussi un menteur, parce que je l'ai fait pour protéger mes parents, je l'ai fait pour ne pas rajouter une couche de la souffrance à la souffrance, la maladie, notre première séparation due à la religion, donc je ne voulais pas en rajouter. Donc c'est pour ça que rapidement j'ai pris la décision de changer de département. Quand j'étais jeune travailleur, tout juste majeur, j'ai pris mon premier appartement et là, voilà. J'avais besoin de voler de mes propres ailes pour pouvoir aussi vivre ma vie librement et ne pas perdre non plus trop de temps à me cacher, bien que je cachais quand même l'essentiel.
Ouais, parce que j'allais dire 18 ans de couple quand même, waouh,
ouais.
Wow,
ouais,
ça a dû peser quand même.
Exactement, ça n'a pas été évident.
Mais c'est entre la peur du rejet, la culpabilité,
du coup,
la peur de sentir menteur.
Exactement. Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je pense que tout ça m'a conduit à pas mal de problèmes, pas mal d'addictions et pas mal de problèmes de poids. Parce que j'étais clairement, sans vouloir faire de raccourcis, mais j'étais plein, en fait. J'étais plein de sentiments que je n'arrivais pas à extérioriser, notamment, comme tu l'as dit, de la culpabilité, des remords. D'un côté, plein d'envie, envie d'être moi-même, envie de vivre, envie de croquer chaque instant qui passait. Donc, j'étais tiraillé.
J'étais ambivalent, c'est exactement ce que j'allais dire.
C'est vraiment le mot que j'allais utiliser aussi. On a vraiment cette impression que tu avais à la fois cette soif de découvrir, de vivre, et en même temps une retenue parce que pour préserver les autres. Et
c'est
donc, tu avais envie à la fois de te faire passer en premier sur beaucoup de choses et en même temps, certainement pas parce qu'il fallait protéger, tu vois, ceux qui étaient à tes côtés et tes parents, etc. Donc, j'imagine, oui, qu'il y a un moment donné où le fait de t'évader à travers des extrêmes et de toucher à certaines choses, à certains, enfin tu vois, à certains comportements qui pouvaient du coup t'amener une autre stimulation, parce que on le sait, hein, ça déclenche de l'adrénaline et tout ça. Et ben, j'imagine qu'il y avait une certaine forme d'échappatoire qui était nécessaire, enfin qui était indispensable.
Ça pouvait jouer comme des évitements.
Ouais.
En fait, hein.
C'est ça.
Mais c'est vraiment ça en fait. Il y a vraiment ce truc là de soit on choisit la vie de notre schéma originel dû à la famille un peu originelle que l'on a, soit on va faire autre chose, et il y a toujours ce moment absolument inconfortable où on a un peu le cul entre deux chaises, je peux le dire
ça,
où t'as une fesse en fait sur avant, sur ce que j'étais avant et ce qu'on m'a dit de faire avant et ce que l'on attend de moi, et une fesse sur la chaise qui te dit en fait moi je suis ça c'est ma vie,
mes valeurs.
Et c'est vers là que je veux aller. Il y a ce truc là un peu où on est un peu entre les deux, jusqu'au moment où on bascule la deuxième fesse d'un côté ou de l'autre.
C'est ça. Et finalement, je n'ai jamais été aussi heureux que ces derniers mois, parce que je pense que sur la pocket list, j'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies. Je suis une personne, on va dire, que je respecte maintenant. Mmh. J'ai un regard beaucoup plus aimant envers moi. J'ai été pendant des années très, 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 très dur avec moi-même parce que mon corps, je le détestais, parce que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Malgré les efforts colossaux que je faisais pour réussir, j'avais l'impression que ce n'était jamais assez. Mmh. Et je ne savais pas où était la limite, car je ne me fixais aucun objectif. Et là, on a pris une décision en couple qui est, pour moi, plus que bénéfique, qui change mon quotidien, qui change chaque heure presque que je vis maintenant. On a pris la décision de se fixer des objectifs et des limites. Mmh. C'est-à-dire que réussir, oui, mais pas à n'importe quel prix, et dans l'équilibre.
Ça, tu revois tes exigences.
Ouais.
C'est même pas à la baisse.
Non,
c'est juste des exigences réalistes.
Exactement.
Atteignables.
Je sais pas si l'épisode sera sorti d'ici là, parce qu'on enregistre dans le désordre, mais il y a quand même un épisode qui sort sur l'exigence. Et justement, encore plus dans le cadre du travail, etc. Bon, toi, ça t'a suivi toute ta vie, mais je pense qu'en plus, quand tu t'engages dans un projet personnel où tu es engagé aussi financièrement, et parce que ça compte, je veux dire, dans le poids de la responsabilité, à un moment donné, quand tu arrives à cibler où est-ce que tu prends du plaisir, où est-ce que ça vient donner du sens à ta vie en globalité et que tu te dis que cette exigence-là, tu l'investis dans des tâches qui te font plaisir et qui vraiment vont t'apporter quelque chose et que tu n'appliques plus cette exigence à tout ce que tu peux ne pas contrôler, parce que, tout ce que tu ne peux pas contrôler, les autres, que tu décides de déléguer, etc., ben en fait, mais tu vis les choses tellement différemment parce que cette exigence-là, elle fait partie de toi, c'est ce qui t'a permis aussi d'en être là où tu es aujourd'hui, mais la canaliser de façon à ce que ça ne vienne plus sacrifier des besoins qui sont essentiels.
Exactement. Là, tu as vraiment tout dit. Ouais.
Et les besoins qui font qu'il y a un équilibre, parce que c'est cet équilibre-là qui est compliqué quand on est toujours dans une course à toujours plus.
Exactement. Mmh. Et j'ai découvert aussi quelque chose qui peut surprendre vu de l'extérieur, mais je ne suis pas forcément et uniquement motivé comme on pourrait le croire. Des fois, on se dit, oui, un entrepreneur, ce qui compte pour lui, c'est l'argent, il s'est fixé un objectif de revenu. Certains le font. Mmh. Nous, avec Florence, c'est pas le cas. Moi, ce qui me motive maintenant, c'est de retrouver l'équilibre et enfin de démarrer. Je vais avoir 40 ans dans 3 ans. J'imagine mes 40 ans comme une presque une renaissance, parce que je pourrais dire que j'ai déjà goûté à plein de choses. Certains attendent la retraite pour être heureux. Mmh. Moi, j'ai décidé qu'on allait vivre les plus belles années de notre vie dès maintenant, mais surtout à partir de la quarantaine.
C'est marrant, ça, tu scandes toujours ta vie avec des temps. Des temps forts.
Oui, parce qu'en fait, symboliquement, je me dis que j'ai besoin de réparer quelque chose. Mmh. J'ai un sentiment en moi d'avoir aussi un peu cramé des années inutilement. Des années dont je n'ai pas de souvenirs, dont je n'ai pas de photos, dont je ne peux pas dire ce que j'ai vécu de manière nommée à 27 ans ou 28 ans, je ne sais pas. Parce que j'étais esclave de moi-même, esclave de mes ambitions. C'est les années où je me le suis le plus maltraité, où j'ai aussi maltraité notre couple, en nous imposant des fois une cadence, des choses dures. Donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de se dire, on s'est fixé un objectif, on va lever le pied d'une certaine manière, à notre manière, c'est-à-dire qu'on va pas non plus...
L'orteil, tu lèves l'orteil.
On va lever un orteil. Et on a pris la décision aussi de changer d'adresse. Alors, s'il y a des clientes qui m'écoutent, n'ayez pas peur, on ne part pas.
Ah non, même moi, je suis pas d'accord.
Pas d'attaque de panique.
Je suis venue de Marseille quand même à un moment donné.
On ne quitte pas. Oui, c'est vrai que Mathilde est également une cliente fidèle.
C'est vrai que tu venais de
loin. Qui nous a connus à nos débuts. On s'est fixé l'objectif de changer de local pour avoir un local plus petit. Un local dans lequel on va pouvoir s'entourer de collaborateurs qui ont vraiment envie d'être avec nous, ce qui est déjà le cas de mon équipe actuelle, mais ne plus aussi être obligé de recruter pour remplir des sièges et satisfaire des exigences financières dans lesquelles on s'est engagé. Donc, on a pris des décisions concrètes pour mettre en œuvre ces changements de vie dont on a envie. Et on a décidé d'une nouvelle répartition. Alors, c'est vrai, une répartition entre temps de vie et temps de travail. On envisage de travailler sous forme de cycle d'environ 6 semaines avec 10 à 15 jours de repos et d'évasion et de répéter ça tout au long de l'année.
C'est
très concret.
Et comme quoi, poser des objectifs. Ouais, et tu vois, tu parlais des limites, mais bon, on en parle beaucoup ici, mais tu vois, ça vient souvent avec la connaissance de soi, en fait, parce que tu t'es tellement poussé dans tous les sens qu'à un moment donné, t'as dit, ah, par là, non. Ah, par là non plus. Ok,
exactement.
Là, par là, je me sens bien.
En fait, tu les as atteints, les limites, je pense.
Ouais, C'est ça. Alors, on n'est pas obligé de les atteindre forcément pour trouver l'équilibre.
Parce
non,
on est bien d'accord.
Alors, on vous conseille d'aller dans tous les sens. Non, mais vraiment, c'est ton parcours de vie et c'est totalement OK. Et comme je te disais tout à l'heure, je conçois totalement ce truc-là d'exigence et c'est ce qui t'a aussi amené ici. Mais c'est vachement intéressant de voir que ce qui pourrait être considéré peut-être par le Luc d'il y a quelques années comme revoir ses exigences à la baisse.
À la baisse.
On réduit, tu vois, la taille du local, le personnel, on se met pas d'objectifs de chiffres, etc. Aujourd'hui, on sent que, en fait, c'est carrément à la hausse de toute ta vision, toutes tes valeurs, tout ton pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?
Exactement. Et justement, si je devais placer ça sous la vision des entrepreneurs que nous sommes, pour moi, c'est comme profiter presque d'un héritage. Un héritage familial, comme si j'avais hérité d'un business qui existe déjà. Alors ce business, on ne l'a pas hérité, on l'a créé.
De l'ancien Luc.
De l'ancien Luc et de l'ancien Florent. Ouais. Et maintenant, on va s'en servir. On est sur une assise confortable liée à l'acharnement de notre travail. Et donc maintenant, l'idée, c'est d'exploiter cet héritage pour faire en sorte qu'il y ait d'autres projets de vie, de voyage. On est des passionnés de voyage. On a déjà eu la chance de parcourir de nombreux pays à travers le monde, et ce, plusieurs fois par an. Donc on a aussi bien profité, mais pas assez. Là, on en veut beaucoup plus. Donc, on a décidé de s'octroyer plus de temps et aussi de revoir nos exigences en termes de standing et de voyager avec moins, avec peu, et de tout miser sur la découverte et le temps libre. Alors, ça fait beaucoup rire des amis qui nous connaissent depuis longtemps, parce que forcément, ils y voient une espèce d'excès, d'un nouvel excès.
Une autre limite à aller
chercher.
Mais moi, enfin, nous sommes convaincus que c'est ce qu'il nous faut. Et en tout cas, on est en train de tout mettre en œuvre parce qu'on a signé les papiers pour rendre le local. On achète un nouveau local, plus petit, donc c'est du concret.
C'est concret,
On a signé. C'est
action,
pas juste
mise en place d'action.
Action, mise en place, exactement. On va devoir expliquer tout ça à nos trois chats, qui sont coutumiers de nos nombreux déménagements et changements de décor. Parce que voilà, on change aussi de décor tous les 3 mois, mais
ça,
c'est un autre sujet.
Il faut le savoir, ils ont au moins déménagé 16 fois. Ils ont déjà été propriétaires 16 fois.
C'est pas moi qui vais les blâmer, je vais pas te mentir, mais...
Non, mais je suis bien d'accord, mais c'est... Je trouve le parcours impressionnant. C'est vrai que vous avez ce point commun du déménagement.
Je fais une année de fac, un appart, tu sais.
mais vous vous réinventez finalement à chaque endroit. Mais c'est marrant parce que tu vois, justement, tout à l'heure, on parlait de cette sécurité que pouvait t'apporter le matériel à un moment donné et ce besoin de t'accomplir, de reconnaissance même à travers tout ça. Et on sent que là, en fait, c'est ailleurs et que tu le places différemment et que le voyage, peut-être que tu vas le vivre différemment que ce que tu as été. Et ce sera pas forcément moins bien ou mieux. Ou, tu vois, c'est juste que ça te correspond à cet instant. Et c'est
tout
pas grave. Dans 5 ans, t'as envie de te faire un voyage de fou furieux.
Exactement,
sur
on pourra alterner.
Déserte.
Il ne faut jamais dire jamais.
Non.
C'est quelque chose que j'ai appris.
Bon, ça me dit beaucoup de choses.
Oui.
Mais concrètement, c'est quand le moment où, selon toi, finalement, tu as mis cette deuxième fesse sur la chaise que tu voulais avoir ?
Alors, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, avec une relation, avec de l'amour, en fait, avec la patience dont a fait preuve mon désormais époux, Marie, j'ai vraiment réalisé l'année dernière, en fait, que j'avais déjà tout autour de moi, que mon envie de toujours plus haut, toujours plus, était totalement inutile et déraisonnable, parce que j'ai eu un déclic où j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé mon homme, j'ai regardé ce que l'on avait créé ensemble, et je me suis dit que finalement, faire vivre ce que l'on avait sans vouloir créer de nouvelles choses, c'était déjà peut-être en soi un nouveau projet. Et du coup, c'est là que je l'ai demandé en mariage.
Okay.
Oh là là, c'est beau.
C'est beau. Oh. Et c'est donc la première fois où tu as regardé ce que tu avais accompli.
Ce que j'avais accompli, exactement. Et en plus,
et tu en as profité.
J'ai commencé à en profiter et il y a une forme de thérapie pour moi qui a été géniale. C'est j'ai commencé à prendre en photo, à nous prendre en photo, à prendre en photo de plus en plus ce que l'on avait, à prendre en photo nos amis, nos proches, ce qui m'a permis de réaliser ce que j'avais en fait. Parce qu'avant, je ne le voyais même pas avec mes propres yeux. Mmh. De voir ma vie en photo.
Mémoire sélective.
Exactement, de voir ma vie, notre vie en photo a été l'élément déclencheur et je sais que je suis passé du bon côté. le côté vivant, ouais, où on profite, où on s'accepte, mmh, côté bienveillant, mmh, avec soi-même.
C'était douloureux, mais au final, c'est quand même vachement confortable quand on choisit la bonne chaise et qu'on est bien assis dessus. Hein.
Oh oui, ça vaut vraiment le coup, investir, ouais, dans du bon mobilier.
Et là, la situation est incroyable parce que nous, nous sommes sur des petites chaises et Luc est dans un merveilleux fauteuil en velours, oui, et finalement, il est parfaitement assis dans sa vie et pour ses prochaines années à venir. C'est un beau tableau. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir permis de passer ce moment avec vous. J'étais très, très, très heureux et très fier d'avoir partagé ce moment de partage avec vous.
Bah, plaisir partagé. Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez de toute façon toutes les petites infos de nos invités en description de ce podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.